le plan de modernisation du règlement sur les établissements touristiques, notamment avec, bien sûr, la présence de Airbnb, Marie-France.
Oui, parce qu'on connaît tous, évidemment, quelqu'un où on a entendu parler d'histoires d'horreur de Airbnb, des tours de condos au centre-ville, notamment la Tour du Canadien, ou des immeubles en copropriété, dont plusieurs unités ont comme unique vocation d'être loués sur une plateforme numérique, dont principalement Airbnb. Ça se passe beaucoup dans le Vieux-Montréal, au centre-ville, sur le plateau, on loue à la chaîne. Et il y a souvent des histoires de cauchemars pour des résidents autour ou dans le même immeuble, du bruit des parties. Là, c'est la fin de semaine de la Formule 1. Ça va se répéter dans plein de secteurs du centre-ville. Dégradation de l'immeuble, va-et-vient incessant. Alors, puis en plus, ça retire du parc immobilier, des appartements en location, qui ne sont plus en location parce que c'est tellement plus rentable de louer à la journée ou à la semaine, tu comprends? Et de ce fait, ça vient modifier aussi la trame des quartiers. C'est plus un voisinage normal quand la majorité de ton bloc appartement consiste en des gens qui vont et qui viennent et qui font la fête. C'est plus une vie normale. C'est plus un voisinage normal. Donc, la ministre Caroline Proulx a voulu moderniser le règlement, ça s'appelle le règlement sur les établissements touristiques, et elle a proposé, entre autres, que et ça vient du fait, sa démarche, du fait que les Airbnb sont là pour rester, donc adaptons le règlement, rendons-le plus équitable pour tous, et l'idée étant aussi de protéger le parc immobilier résidentiel, qui est des immeubles qui ne partent pas uniquement dans le Airbnb, mais qui soient encore disponibles pour des citoyens qui veulent le louer tout simplement. Alors, elle propose dans son projet de modernisation du règlement, elle essaie de protéger la vocation résidentielle des unités d'habitation. Elle vient clarifier la notion de résidence principale et là, elle crée une catégorie d'hébergement qui s'appelle établissement de résidence principale. Donc, on peut louer, toi et moi, on pourrait louer en toute légalité pour une courte durée, c'est-à-dire moins de 31 jours. Ça n'a pas changé, c'était ce qu'il y avait dans le règlement. On peut louer donc en s'enregistrant, en ayant un numéro carrément et en déclarant les taxes, on peut louer nos maisons comme ça ou nos appartements.
Et il va falloir prélever ce qu'on appelle la taxe
Absolument.
Sur l'hébergement,
Absolument.
Qui est une taxe de 3,5%.
Oui, exactement. Et il va falloir, ça c'est vraiment nouveau et important, si par exemple on est locataire dans un immeuble et on veut louer en Airbnb pour moins de 31 jours notre appartement, ça va prendre l'autorisation du propriétaire. On ne pourra plus faire ça dans le dos du propriétaire.
Ouais, mais c'est comme une sous-location. Dans le
Exactement,
fond.
Mais il faut que le propriétaire soit au courant parce sa maison ou son appartement peut se dégrader sur un moyen temps et puis il n'est pas nécessairement d'accord. Et dans une copropriété divise, ça va prendre l'autorisation du syndic de copropriétaire. Donc, ça vient un petit peu resserrer, disons, et ça vise à faciliter la tâche et à redonner une part du gâteau à des propriétaires occupants plutôt que de tout concentrer entre les mains de locataires non résidents qui en font quasiment une job à plein temps.
Ouais. Les propriétaires là, qui veulent louer leur résidence vont être obligés de se procurer un numéro d'enregistrement.
Absolument.
J'ai hâte de voir si les gens vont contourner peut-être la loi ou s'ils vont faire comme... Rappelle-toi, ça me rappelle un peu le registre des armes à feu.
Oui.
C'est pas tout le monde qui
se
bousculait au portillon pour aller s'enregistrer.
Exactement, parce qu'il va falloir payer les taxes et qu'il va falloir se soumettre à la loi du moins de 31 jours, alors que certains veulent peut-être louer plus longtemps. Et puis, est-ce que c'est assez? Quand le but est de redonner les quartiers ou une partie des quartiers aux citoyens normaux, donc qui ne sont pas sur ces plateformes-là. Est-ce que c'est assez? Il n'y a rien dans cette loi-là sur, si j'ai bien compris, il n'y a rien sur les surlocataires, c'est-à-dire ceux qui carrément achètent dans le but de louer sur des plateformes. C'est un peu homéopathique comme manière de procéder. C'est une modernisation, mais un peu cosmétique. Est-ce qu'on va vraiment arriver avec ça à améliorer ou à protéger la trame urbaine, à protéger les logements pour ceux qui... Parce qu'on sait qu'il y a vraiment une crise du logement dans la plupart des grandes villes et à travers le Québec. Donc, est-ce qu'on va pouvoir réussir à protéger les logements de cette manière-là? Ça me semble un petit peu... Airbnb est là et on prend acte et voilà.
Est-ce qu'on peut louer ta demeure?
Je ne croirais pas.
Non, tu n'es pas ouverte à Airbnb.
Moi, je suis pour en louer. Je l'ai fait à l'occasion.
Oui,
mais,
pour louer.
Pour louer, mais ma maison...
Pas sûr.
Et toi, Paul?
Non, parce que j'ai vu le documentaire qui est passé à RDI.
Oui.
Il y a 2 mois.
Ouais, ça...
Écoute, je suis resté tétanisé par le documentaire. Je l'ai regardé même une deuxième fois sur la plateforme TouTV. J'en suis pas revenu. Mais là, évidemment, c'était des cas extrêmes de démolition.
Oui, bien c'est ça.
Règle d'appartement.
Je crois à la bonne foi de l'être humain, ouais. Mais jusqu'à un certain point.
Voilà. Aurons-nous une réforme du mode de scrutin? Peut-être. Est-ce que nous aurons un référendum? En tout cas, toujours est-il que M. Legault, lui, s'est engagé à déposer d'ici le 1er octobre un projet de loi pour la réforme du scrutin. Lui-même proposerait ce qu'on appelle la proportionnelle mixte, mais certains de ses propres députés ne sont pas d'accord parce qu'ils auraient perdu leur comté.
Exactement. On entend déjà le bip, bip, bip de certains députés ou d'un gouvernement qui devra peut-être reculer. Chose certaine, c'était dans les promesses électorales de la CAQ. On est quand même rendu à analyser et à voir quel genre de proportionnel on pourrait avoir parce qu'il y a différents types de proportionnels. Elles ne sont pas toutes égales. Donc, il va quand même plus loin pour l'instant que Justin Trudeau qui avait promis et qui, en dedans d'un a capitulé complètement. Maintenant, reste à voir comment ça va se faire. On sait qu'il y a quelques semaines, alors qu'il est en voyage à New York, M. Legault avait dit non, pas de référendum, et que là, vu que ses députés commencent à s'inquiéter, voyant ce que propose Sonia Lebel, la ministre responsable de cette réforme du mode de scrutin, peut-être qu'il y aura un référendum, puis là, est-ce qu'il y aura un référendum avant l'élection? Ça coûte très cher, organiser ça par le DGE. Ça peut coûter entre 70 et 90 millions de dollars. Donc, ça serait peut-être mieux de mettre ça avec une élection. Mais ce que l'expérience des provinces qui ont proposé la réforme du mode de scrutin au référendum, l'Ontario, la Colombie-Britannique et l'île du Prince-Édouard, quand on propose avant de faire une réforme, on vote non. Et dans des pays comme la Nouvelle-Zélande où on tient la réforme, et qu'après une ou deux élections avec la nouvelle réforme, on tient un référendum. Là, comme par hasard, c'est oui, on veut garder le mode de scrutin proportionnel. Alors, ça va vraiment dépendre de comment cette réforme-là va être proposée, parce que c'est très clair qu'il y a du pour. L'argument le plus intéressant étant que dans un système proportionnel, tous les votes comptent, parce que regarde, par exemple, moi je suis à l'ouest de la rue Saint-Laurent à Montréal, et si je ne vote pas pour le Parti libéral, mon vote est littéralement inexistant.
Eh oui,
parce que c'est peinturé rouge, tout l'ouest de Montréal est noyé complètement. Donc là, mon vote compterait. Parmi les contres, il y a deux classes de députés. Il y a ceux qui vont être élus et ceux qui seront sur la liste complémentaire qui est proposée et qui fait partie du système proportionnel, ce qui fait très peur aux élus de la CAQ.
Bien sûr.
Parce que...
Le gouvernement de la CAQ actuel aurait été minoritaire.
Exactement.
Avec la proportionnelle mixte.
Tout à fait. Parce que, pour l'instant, ce que Sonia Lebel, ce sur quoi elle travaille, ce système-là, ce serait un système donc mixte, comme tu dis, c'est-à-dire que il y aurait 80 députés qui seraient élus au suffrage uninominal à un tour, ce qu'on connaît actuellement, et 45 se rajouteraient, selon les circonscriptions électorales, 45 qui sont sur une liste, donc qui ne sont pas élus. Il y a comme, si tu veux, deux catégories de députés. Ceux qui ont mené leur campagne électorale et qui sont élus, et ceux qui, selon la proportion, seront nommés députés, donc qui n'auront pas eu la même procédure à suivre. Partout où, finalement, la proportionnelle passe, on s'habitue à ça, puis ça devient normal, mais je comprends que ça puisse braquer quelques députés et braquer quelques électeurs également. Et puis, en plus de ça, dans le système proportionnel mixte, un parti devrait décrocher 42 % des suffrages pour être majoritaire. La CAQ, en ce moment, a été élue majoritaire à 37,4 %, la plus basse majorité depuis Duplessis. Donc, c'est clair qu'il y a des députés qui perdraient, une quinzaine de députés qui perdraient leur circonscription. C'est quand même beaucoup.
Mais en même temps, cette réforme, on veut la faire parce qu'on dit justement que c'était injuste. Dans le passé, on a vu dans certaines élections générales, plusieurs fois même, un gouvernement être formé, donc un parti l'emporter au nombre de sièges, mais avec un scrutin, c'est-à-dire une participation universelle inférieure à, souvent aux partis d'opposition.
Exactement. Et en même temps, on dit aussi beaucoup que c'est un système, notre système actuel, qui décourage les partis tiers, qui s'est fait vraiment pour des systèmes avec deux partis principaux, alors que ça fait quelques élections maintenant que les faits nous démontrent qu'au contraire, il y a quatre partis qui sont là. Le Québec solidaire est un parti qui s'est créé. Le Parti québécois s'est créé à travers deux partis qui existaient à l'époque, dans les années 70. Ouais. Donc, notre système ne décourage pas complètement l'éclosion de partis tiers. Et puis, c'est pas nécessairement parce qu'on aurait un système proportionnel que, par exemple, les Verts, qui sont à 1,7 %, le seuil plancher pour pouvoir être représenté à travers la liste électorale, la liste proportionnelle, ça peut être à 5 % ou à 10 % dépendamment des pays, mais à 1,7 % tu ne serais pas représenté. Donc, les Verts ne le seraient pas nécessairement
pas
au Québec, pas plus.
Bon.
Donc, il y a du pour, il y a du contre, et c'est pour ça que la pédagogie va être vraiment importante et effectivement, un référendum serait fort intéressant.
Merci, Marie-France.
À demain, Paul.
À demain.